C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes jeudi 15 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, c'est vraiment une journée de septembre. C'est du soleil. Température de saison, autour de 17, là. C'est ce qu'on prévoit. Beaucoup de soleil avec des vents modérés. En soirée, quelques nuages, minimum de 10 pour la nuit prochaine. Demain, pour terminer la semaine, c'est du soleil autour de 19. Et pour la fin de semaine, jusqu'à maintenant, on prévoit samedi, encore le 19. Et ça va être stable là, jusqu'au début de la semaine prochaine. Soleil, nuages et de la pluie qui devrait commencer tard samedi dans la nuit, de samedi à dimanche. Et d'ailleurs, dimanche, on prévoit peut-être une dizaine de millimètres de pluie. Beaucoup de choses ce matin. Je vais dire un mot sur le sondage rapidement, puis je reviendrai sur la campagne électorale et le débat des chefs. Mais il y a donc un sondage léger Québécois qui est publié ce matin, qui nous montre que François Legault a perdu 4 points, la Coalition Avenir Québec, est maintenant à 38%, donc domine quand même devant les libéraux à 18, qui sont en hausse de 1. Québec solidaire est en hausse de 2. Le Parti conservateur du Québec est à 15, donc en quatrième position. Et le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon est à 11, une augmentation de 2. C'est une domination de la CAQ, mais il y a quand même un élément important dans le sondage qui ressort. Les Québécois sont encore influençables. La décision finale n'est pas prise pour un nombre élevé de citoyens. Et M. Legault a des problèmes particulièrement à Montréal. Et l'autre élément qu'il faut considérer, c'est les luttes régionales et même des luttes de comté qui pourraient faire en sorte de donner 1, 2, 3, 4, 5 comtés de plus. Alors, on sait qu'à Montréal, la CAQ en arrache. On sait que les conservateurs sont forts dans la région de Québec. Québec solidaire a ses comtés sûrs. Il y a des batailles solides à Sherbrooke. En Abitibi, ça va ressembler à quoi? Même dans la région de Québec. Alors, est-ce que Éric Duhaime, par exemple, va se faire élire? Puis est-ce que à 15%, il va être capable de je sais pas moi, se présenter à l'Assemblée nationale avec deux ou trois députés. Donc, il y a encore une certaine marge de manœuvre. J'y reviendrai tantôt plus en détail parce que ce matin, je veux vous parler d'inondations et de taxes. D'abord, hier, ça a été le dépôt du registre foncier de la Ville de Montréal. C'est une augmentation spectaculaire. Vous pouvez aller voir là sur le site web de la Ville la valeur de votre propriété aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 3 ans. Et c'est une augmentation, là, c'est un bond de 32,4%. C'est du jamais vu depuis 15-20 ans. Et selon l'endroit où vous habitez, votre maison, là, je vais vous donner quelques exemples ce matin, le prix s'envole. Alors, si je prends le cas, mettons, dans l'ouest de l'île, une maison unifamiliale à Beaconsfield, c'est 39% d'augmentation, c'est 1 million. Kirkland, 41% d'augmentation. Sainte-Anne-de-Bellevue, 45%. Si on se rapproche un peu plus du centre de la ville, Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est 34%. Le Plateau, 34%. Côte-des-Neiges, 38%. Vous avez 35% d'augmentation à Verdun. Si vous regardez Hochelaga-Maisonneuve, on est à 40%. Alors, partout comme ça, ce sont des augmentations qui sont spectaculaires. En passant, quand Québec solidaire nous dit que quelqu'un qui a un patrimoine de 1 million est un méchant riche, là, puis un ultra riche, là, pense que depuis hier, la liste des riches s'est pas mal allongée. Et ce sont des gens qui ont cette valeur sur papier tant que la maison n'est pas vendue. Mais ça a des conséquences réelles. Ça a des conséquences sur le prix des loyers. Donc, la crise du logement, on ne va pas s'atténuer avec ça. Et la grande question que vous vous posez ce matin, quel sera l'impact sur mon compte de taxes? D'abord, vous comprendrez que j'ai écouté avec intérêt hier les propos de la présidente du comité exécutif, Mme Olivier, qui va être avec nous tantôt. Et je comprends qu'on n'aura pas de réponse, évidemment, avant le budget. Mais elle a dit hier que on n'avait jamais promis d'augmenter le compte de taxes de 3%. On parlait de l'inflation. Mais l'inflation, là, c'est 8 %. Et là, elle a dit, je pense pas qu'on va aller là, mais il faudra voir. Et là, ça va s'ajouter à toutes les autres augmentations. Donc, si vous êtes propriétaire d'une maison, que, pour moi, la valeur, là, ça, les auditeurs qui m'envoient des captures d'écran de leur compte, là, leur évaluation, 150 000, 200 000, puis rajouter une augmentation, mettons, de 5. Faites les calculs, là, et ça, c'est répétitif. Et savez-vous quoi? Je n'ai aucune confiance dans les coms de la Ville de Montréal en termes de transparence sur les augmentations de comptes de taxes. Ils vont trouver un moyen de nous dire que le compte augmente de temps, mais ça, c'est la Ville-Centre. Puis après ça, il y a l'augmentation dans chacun des arrondissements. Puis c'est drôle, hein? Quand vous prenez votre compte de taxes, rarement vous arrivez avec l'augmentation qui publiquement est annoncée. Ça s'appelle un tour de passe-passe de com. Et on connaît le côté glouton des administrations municipales. Je comprends qu'il y a des besoins. On a vu la sortie sur les changements climatiques. Mais est-ce que c'est normal que les services municipaux coûtent si cher que ça aussi? On peut se questionner. Puis on peut se questionner sur la capacité de payer des gens. Je sais, j'avais entendu à l'époque M. Doré, qui était au comité exécutif, dire c'était pas grave de payer 200-300 $ de plus par année de taxes. On peut pas vraiment vivre à Montréal. Il le regrettait après, là. Mais il y a souvent cette bureaucratie municipale, et surtout après une élection, là. Ça va faire un an que Mme Plante a été réélue. Donc, il n'y a pas d'échéance électorale proche, là. Et ce sont les belles années pour aller piger dans les poches des citoyens. Et que je rappelle, pour les gens de Montréal, là, vous pouvez aller voir facilement et obtenir le portrait de votre propriété. Puis il y a des variations selon le type d'immeuble, condo, commerce. Mais préparez-vous à des augmentations de taxes hyper solides. L'autre dossier important, c'est le déluge et ses conséquences sur les infrastructures. Les citoyens ont été touchés dans plusieurs coins de Montréal, mais ailleurs aussi, là, je pense à Longueuil. Et il y a un constat qui est fait, et c'est pas la première fois, que les infrastructures n'ont pas été conçues, n'ont pas été aménagées, construites pour faire face à certains phénomènes extrêmes de météo. Même les météorologues n'avaient pas prévu le déluge qui nous est tombé dessus l'autre soir, pendant le souper, mardi. Et on le sait, là, des gens ont vu leur sous-sol inondé. Souvent, c'est un appart qui a été inondé. Les égouts ont refoulé. On n'a pas été capable d'absorber cette quantité de pluie en si peu de temps. Et bref, on le sait, ça a été extrêmement rapide. Alors, depuis hier, on constate que ces événements-là, un, vont se reproduire, puis deux, qu'on n'est pas équipé pour y faire face. Et je le sais, il y a des voitures qui ont été endommagées, là, la liste est longue de l'impact, mais c'est clair, et Mme Plante est sortie avec les maires des autres municipalités en disant « on a besoin d'argent ». Puis je comprends, là, la Ville de dire « on peut pas juste augmenter les comptes de taxes ». Il y a quand même une réalité, c'est d'aller chercher des revenus pour ajuster les infrastructures, adapter la Ville. Et c'est vrai pour Montréal, mais c'est vrai pour Longueuil. Des gens qui habitent Saint-Charles, la rue Saint-Charles, des gens qui habitent dans le secteur de La Flèche. Eux autres, ils y ont goûté solide mardi soir. Donc, on aura aussi l'occasion d'y revenir. Je pense que hier, notre ami monsieur, j'oublie le nom, mais de Météo Environnement Canada, qui disait que il y a certains, monsieur Boulay, c'est ça, 140 mm de pluie, là. Ah, écoute, là, quand ça tombe, là, et c'est clair qu'on va en voir de plus en plus souvent. Quand c'est pas de la pluie, ça va être du vent, puis ça va être de la neige, puis ça va être du gel, puis du dégel. C'est un peu ce qui nous attend. Je reviens rapidement sur le sondage et le débat de ce soir. Je rappelle donc les chiffres. La CAQ est à 38, les libéraux 18, Québec solidaire 17, conservateur 15, Parti québécois 11. Donc c'est une baisse de 4 pour la coalition Avenir Québec. Et les autres partis font de légers gains. Mais on connaît la distorsion. C'est-à-dire que pour être capable de faire élire vraiment plus qu'un ou deux ou trois députés, sauf pour le Parti libéral, là, ça prend 20 % des appuis. Donc, même dans le cas de Québec solidaire à 17, ça sera pas suffisant pour changer la donne. Ils vont peut-être même perdre des plumes, perdre certains comtés. n'ont pas de système proportionnel. Donc, toutes ces voix d'opposition fragmentées risquent de ne pas se faire entendre trop le jour de l'élection. Sauf que il y a 34 % des Québécois qui disent pouvoir changer d'idée. Le débat de ce soir, puis le prochain débat aussi, peuvent avoir des influences, une influence. Et c'est clair que celui qui a le plus à perdre, c'est le premier ministre. Il va être visé. On sait qu'il peut l'échapper, il peut déraper, il peut se fâcher. Et on va parler d'ailleurs du débat des chefs avec Gilles Duceppe tantôt, là, mais c'est il est à risque. Et il va se faire, comme on dit, tirer de tous les coins. Je sais que la formule est toujours, malheureusement, hyper vissée. Puis là, vous avez 5 chefs. Puis le temps d'antenne est le même, ce qui fait qu'ils ont intérêt à être performants, pointus. Et il y a un potentiel toujours de cacophonie dans ces histoires-là. Mais est-ce que le débat peut influencer? Il semble que oui. Il y aura des luttes importantes. Puis la CAQ, c'est pas compliqué. La CAQ balaie le Québec, à part quelques comtés chauds, là, je pense à Pascal Bérubé à Matane, où il va être réélu. Mais c'est vraiment là une vague caquiste, sauf à Montréal. Puis des fois, ça paraît dans l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la ville de Montréal. Pour ce qui est d'Éric Duhaime, bon, ça a été une journée hier, comme on dit en deux temps, où il a présenté son cadre financier. Essentiellement, il veut couper dans les impôts, il veut couper dans les dépenses, il veut couper les subventions aux entreprises. C'est un exercice. T'sais, théoriquement, c'est bien beau, là, mais dans les faits, est-ce que ça peut se faire? Puis on peut questionner la rigueur du cadre. Puis là, il a été écorché encore une fois par un certain nombre d'événements. Son porte-parole, M. Lapointe, qui a défié les règles sanitaires, parce qu'il allait s'entraîner, même s'il y avait une interdiction d'aller dans les gyms. On a vu la saga dans le temps où les gyms étaient ouverts en cachette. Bon, mais lui, il était là-dedans. Puis il a comme résisté aux mesures sanitaires. Il a le droit. C'est-à-dire, il a le droit. C'est son point de vue. C'était illégal, ce qu'il a fait. Mais il conteste pas les faits. Puis t'en as un autre qui, il y a une couple d'années, comparait le Parti québécois à des nazis. Un autre candidat, là, qui, comme ça, dérape sur les réseaux sociaux ou a dérapé sur les réseaux sociaux. Maintenant, chez les conservateurs, Alain Reyes s'est fait écœurer hier un peu, mais il a reçu beaucoup aussi d'appels de réconfort de citoyens de son comté. Parce que M. Poilievre a lancé son troupeau sur le téléphone en disant « Appelez son bureau de comté et demandez qu'il quitte. » J'ai pas vu ça, à mon souvenir, là. Un nouveau chef qui part après un député qui dit « Moi, je suis pas bien avec toi, puis je siège comme indépendant. » Ça donne un peu le ton. C'est comme l'histoire du journaliste de Global. Les gens disent « Ouais, mais regardez, il essayait de parler, puis il laissait pas Poilievre parler. » C'est un événement de presse. La méthode Poilievre, c'est prenez des notes, puis posez pas de questions. Et c'est comme ça. C'est la méthode Trump. C'était la méthode un peu de Stephen Harper, qui contrôlait les points de presse dans le détail. Et là, après ça, arrive ce communiqué en disant, à la Trump, là, c'est-à-dire les méchants médias, puis il faut les contourner, parce qu'on véhicule pas à son goût le message conservateur. T'sais, on a beau remettre en question les dépenses de Trudeau, sa stratégie sur l'inflation, le congé qu'il donne aux fonctionnaires. Non, on est tous évidemment à la solde du gouvernement. Et ce discours-là, ben, il commence à l'enfoncer avec le marteau, puis on l'a vu. Alain Reyes sera avec nous aussi plus tard ce matin. Puis au Canada anglais, c'est intéressant, c'est de surveiller aussi la polémique concernant la résidence du chef de l'opposition, résidence officielle, qui s'appelle Stornoway. Et là, tout le monde se dit, mais Poilievre qui dénonce l'élite, puis les petits fours, puis l'espèce d'establishment, est-ce qu'il va aller habiter la résidence officielle? Réponse, oui. Puis savez-vous quoi? Il a raison. Il y a une résidence. Ça coûte la totale, ces résidences, parce qu'il faut toujours les rénover. Je pense qu'il y a un calendrier de travaux pour 1 million. Mais c'est lui le chef de l'opposition. Puis ça vient avec. C'est sûr que dans l'image, c'est moins bon. T'sais, il dénonce l'utilisation des fonds publics à des fins futiles. Puis souvent, il a déjà cité ce genre-là. Mais je pense qu'il va évidemment sauter là-dessus. Autre chose ce matin. Dans le Devoir, c'est-à-dire qu'on savait que ça s'en venait, mais là, ça se précise. Le ministère de la Santé qui veut sortir les patients dans les hôpitaux qui sont là en attente d'un lit dans une résidence ou un centre de soins de longue durée. T'es rentré à l'hôpital, on t'a stabilisé, on t'a soigné, t'as plus besoin d'avoir un médecin, une infirmière, t'as besoin d'aller dans un centre, une maison, un centre d'hébergement, mais tu prends la place d'un patient qui, lui, a besoin de chirurgie, qui, lui, a besoin d'être surveillé, monitoré. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? D'ici le 5 novembre, on va identifier, c'est déjà le cas, là, mais on va prendre chacun de ces patients qu'on pense être en mesure d'aller ailleurs, de quitter l'hôpital, puis on va dire aux aidants, tu as moyen de vous en occuper. Ça va être intéressant à suivre. Puis on va vous donner des services à la maison. Pourriez-vous aller rester avec votre père le temps qu'on y trouve une place dans un centre? Pourriez-vous le prendre à la maison? Et quand vous regardez les chiffres qu'on trouve dans Le Devoir ce matin, une hausse importante du nombre de patients hospitalisés en attente d'une place d'hébergement, 18 % des lits disponibles étaient occupés par des gens qui n'avaient plus besoin de soins de courte durée. Puis parmi ces gens-là, pas loin de 40 % étaient en attente d'un hébergement. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Il paraît que le CIS de Lanaudière est parvenu à réduire le nombre de personnes comme ça qui occupent des lits pour rien. Puis on connaît les effets domino, là. Tu travailles à l'urgence, tu peux pas monter les patients sur les étages, tu voudrais opérer, tu n'as pas de lit pour garder le patient après une chirurgie importante, tu n'as pas le personnel pour garder le patient parce que le personnel est occupé, puis il manque du monde. C'est toujours un peu la même recette, là. Mais on tente de faire ce changement-là. Aussi, ce matin, dans la presse, une campagne du gouvernement pour trouver des enseignants a amené 6000 candidatures cet été. Seulement 371 de ces 6000 personnes ont été recrutées avant la rentrée des classes. Et près de la moitié de ceux qui voulaient devenir profs n'ont pas été retenus. Ils passent pas le test, comme dit le journal, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas les aptitudes. C'est pas simple de devenir prof, là. C'est pas en claquant des doigts. Alors, il y avait un désir, mais il n'y avait pas la capacité, puis il n'y avait pas les compétences pour faire ça. Et puis, je rappelle, 204e journée de la guerre en Ukraine. Jean-François Lépine sera avec nous. On va regarder, entre autres, le jeu diplomatique entre la Chine et la Russie. Et le président Zelensky, qui confirme les avancées ukrainiens, dit « Nous n'allons que dans une seule direction ». C'est en avant et vers la victoire.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Mardi soir, déluge. Et quand on dit un déluge, là, c'est une quantité impressionnante d'eau qui tombe au même endroit, sur une courte période de temps. Vous avez vu, évidemment, l'impact, route fermée, des sous-sols inondés. Même le métro de Montréal a été touché. Ce sont des événements météo extrêmes. Même les météorologues n'avaient pas anticipé autant de millimètres de pluie en si peu de temps. On nous disait hier, par exemple, qu'à certains endroits, pour l'ensemble de la journée, c'était plus de 100 millimètres, ce qui est l'équivalent de ce qui tombe parfois en un mois. Et ça vient comme challenger les infrastructures des villes. On sait que les mairesses et les maires de plusieurs villes ont dit au gouvernement du Québec qu'il faut investir sur les changements climatiques, l'impact. Et M. Legault a dit non, on verra au cas par cas. Je vais me tourner vers Longueuil, parce que à Longueuil, il y a eu évidemment des inondations, les services publics ont été sollicités. Beaucoup d'auditeurs du Vieux-Longueuil, de la rue Saint-Charles, puis dans la plus vieille partie de La Flèche, nous ont écrit en disant on y a goûté, puis on y goûte encore. La mairesse de Longueuil est avec nous, Catherine Fournier. Madame Fournier, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Peut-être nous faire d'abord un bilan là, de ces inondations qui ont touché votre ville mardi.
Bien sûr, mais vous l'avez bien dit d'entrée de jeu. En fait, on a eu énormément de pluie sur une courte période. On parle de 70 mm là, en une heure, entre 17h et 18h essentiellement, alors qu'habituellement, on reçoit 80 mm de pluie là, dans l'ensemble du mois de septembre en moyenne. C'est pour vous donner une idée. Donc, évidemment, dans certains secteurs encore davantage touchés, puis selon la configuration des rues, Il y a eu du débordement. En fait, il y a eu de l'accumulation d'eau un peu partout à Longueuil. Mais selon la structure aussi de certains immeubles, bon, il y a quand même eu 125 adresses touchées par des inondations. Même chose, 8 bâtiments municipaux. Il y a eu énormément, évidemment, d'appels à nos services d'urgence. Sur le territoire de l'agglomération, les pompiers ont procédé à 258 interventions. Les pompiers ont répondu à plus de 1400 appels. Et notre centre de service aux citoyens a été vraiment débordé. Près de 3000 appels qui sont entrés, 300 dossiers citoyens là, qui ont été ouverts par la suite. Donc, ça a été du sport, mardi soir.
Bon, on sait que ces événements extrêmes vont se reproduire plus souvent. Ça s'est vu avant, mais l'impact des changements climatiques là est perceptible. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous demandez pour mieux, préparer ou réparer vos infrastructures, mieux les adapter à ces événements plus intenses?
C'est certain qu'il faut s'y préparer. Il faut rendre nos infrastructures plus résilientes. Nous, à Longueuil, on est en train de préparer là, un plan complet d'adaptation au changement climatique, mais de façon très concrète pour des épisodes comme on a connu mardi soir. C'est certain qu'il y a quand même une certaine limite à ce qu'on va pouvoir faire parce que, bon, nos canalisations ont un certain diamètre, nos puiseurs, même chose. Donc, lorsque ce genre d'épisode-là, même si on améliore nos conduites, par exemple, il va quand même y avoir un défi. Ce qui est important pour nous, c'est notamment d'augmenter la capacité de traitement de notre centre d'épuration des eaux. Parce que on en a peu parlé, mais un cas comme celui de mardi soir fait en sorte que lorsqu'on a des pluies torrentielles comme on les a connues, l'eau ne se rend pas là, finalement au centre d'épuration, elle se rend directement au fleuve. Donc, ça crée des surverses, évidemment, d'eau usée qui peuvent être contaminés, donc c'est des dommages environnementaux quand même à ne pas sous-estimer. Puis maintenant, bon, dans nos rues comme telles, c'est certain qu'en procédant à un verdissement avec davantage justement d'emprises vertes, les toits verts, quand on requalifie les milieux, on est capable quand même de mieux capter l'eau en amont avant qu'elle se ramasse dans les puiseurs. Donc, c'est beaucoup d'investissements. Évidemment, on veut aussi réhabiliter le niveau de service de certaines conduites dans les secteurs avec les plus faibles niveaux de service. D'ailleurs, la Ville est en train de les répertorier. Mais on s'entend, là, c'est des investissements colossaux qui vont être nécessaires là, dans les prochaines années.
Il y a des municipalités plus petites qui ont été obligées de prendre des mesures parce qu'il y a eu un boom de population et que ça mettait une pression énorme, par exemple, sur le système d'eau. Et à tel point qu'on a demandé aux gens de pas arroser, on a pris des mesures là assez drastiques pour éviter que on se retrouve en pénurie d'eau. Il y a quand même des projets immobiliers importants à Longueuil. Est-ce qu'il y a un potentiel où vous dites si on continue comme ça, ben on va être obligé de réglementer de façon encore plus sévère, par exemple l'usage de l'eau?
Je pense que d'abord, c'est une responsabilité de diminuer notre consommation d'eau. D'ailleurs, à Longueuil, on s'est allié avec les autres villes de l'agglomération pour instaurer aussi des règlements sur l'arrosage. On a également la responsabilité de prévenir aussi des fuites dans nos canalisations, parce que ça non plus, on n'en parle pas, mais il y a un défi sur ce plan-là. Maintenant, en ce qui a trait au développement, bon, nous, on veut agir de façon responsable. C'est certain qu'on n'ira pas de l'avant avec un développement qui excède notre capacité de fournir de l'eau potable. Ceci étant dit, on a quand même des impératifs au niveau là, de l'octroi, disons, de l'augmentation plutôt de la construction de logements sur notre territoire. On veut densifier notre territoire pour répondre aux besoins en logement de la population. Donc, c'est sûr que nous, on va s'engager évidemment à agrandir nos capacités autant de production d'eau potable que de traitement des eaux usées. Ça, c'est bon. La Ville a un plan d'investissement. Puis d'ailleurs, c'est la Ville là, qui va payer la 90% de la note de l'agrandissement de nos infrastructures. Là, on a besoin de soutien gouvernemental parce qu'on parle en centaines de millions de dollars. C'est vraiment en ce qui a trait au maintien d'actifs. Au rattrapage également, on sait qu'il y a un déficit majeur là, d'entretien de nos infrastructures. Puis dans un cas comme l'agglomération de Longueuil, on fonctionne avec un centre d'épuration des eaux usées qui a été construit et qui nous a été légué par le gouvernement du Québec il y a 30 ans et qui n'était pas fait pour traiter les eaux de pluie. Donc, il est fait pour fonctionner par temps sec. Ça, c'est extrêmement problématique. Si je reviens au...
Mais attendez, je ne suis pas un expert. Quand vous me dites que ce n'est pas fait pour fonctionner en temps de pluie, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité de traiter les eaux de pluie. On a la capacité de traiter les eaux usées lorsqu'il y a un temps sec. Dès qu'il y a énormément de pluie, puis là, bon, la situation de mardi soir est même exceptionnelle à cet égard-là, c'est là qu'on a le phénomène là, des surverses. C'est-à-dire que notre centre d'épuration n'est pas capable de prendre le volume de pluie. Parce que vous savez, dans une vieille ville comme Longueuil, il y a le deux tiers de nos canalisations qui sont unitaires. Ça veut dire que l'eau des égouts, l'eau dans le fond des rejets des eaux usées domestiques, industrielles, etc., va passer par la même canalisation que l'eau de pluie qui est captée par les puiseurs.
Oui, vous avez tout un défi. Comment vous réagissez aux propos du premier ministre qui est en campagne électorale, qui dit là devant vos demandes, et quand je dis vos, là, je parle de l'ensemble des demandes des municipalités, c'est non, et on regardera ça à la pièce.
Je pense que Mère Nature n'a pas tardé à réagir, elle non plus. C'était effectivement un peu ironique de voir que ces événements extrêmes se sont produits à peine quelques heures après cette réaction du premier ministre. Donc, j'ose croire que peut-être qu'il a déjà cheminé depuis puis qu'on pourra entreprendre de vraies discussions avec le gouvernement qui sera élu le 3 octobre.
OK. Sur un autre front, mais en même temps c'est lié, est-ce que vous avez un nouveau rôle d'évaluation cette année à Longueuil ou c'est pour plus tard?
Nous, c'était l'an dernier dans l'agglomération de Longueuil.
OK. Là, vous préparez le budget, évidemment, cette année. Est-ce que les citoyens doivent s'attendre à de bonnes augmentations de taxes avec tout ce que vous venez de me décrire, là?
C'est certain qu'il va y avoir une certaine augmentation là, en fonction de l'inflation. On n'a pas encore déterminé le scénario final avec nos équipes des finances. Mais c'est certain qu'on n'est pas dans des scénarios là, de gel de taxes parce que malheureusement, on a vu l'effet, notamment sur nos infrastructures, des gels de taxes là, répétés à travers les années. Donc, si on veut agir de façon responsable, c'est certain qu'on n'a pas le choix d'aller vers une certaine hausse. Je veux juste rappeler peut-être pour faire le portrait quand on compare aux autres gouvernements, que ce soit le gouvernement québécois, le gouvernement fédéral, eux, ils ont leurs revenus qui augmentent quand même de façon importante. L'an dernier, le gouvernement du Québec a vu ses revenus en fait augmenter d'environ 20%. C'est sûr que ce sont les villes qui ont un peu l'odieux, entre guillemets, là, d'augmenter leurs taxes à chaque année, mais quand on se met en perspective, faut rappeler que les villes gèrent 58% des infrastructures publiques, alors qu'on bénéficie seulement de 8% de l'assiette fiscale, donc tout ce que payent les citoyennes et citoyens en taxes, en impôts. Donc, il y a vraiment un débalancement. Puis moi, j'en appelle à une grande réflexion aussi, tout comme mes homologues là, des grandes villes puis d'un peu partout au Québec, de dire il faut qu'on revoie là, l'étendue des responsabilités puis comment les villes sont financées aussi, parce que vous avez bien raison, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les gens ont aussi une capacité maximale de payer, donc on va essayer de garder un certain équilibre, mais ça pose une réflexion de société.
C'est parce que quand vous me dites l'inflation, aux dernières nouvelles, l'inflation est à 8%, alors là, j'imagine que vous n'irez pas là.
Non, on n'ira pas aussi fortement que l'inflation. Ça, de toute façon, c'était un engagement de notre part. Mais vous savez, en ce moment, dans les villes, les contrats, on fait des offres, des appels d'offres. Les contrats explosent. Quand on a un contrat, un appel d'offres qui sort à peu près 20% au-dessus du prix, c'est quasiment parmi les plus bas qu'on reçoit. Là, c'est quasiment une surprise positive. Donc, il y a un défi là, qui est majeur si on veut maintenir aussi le niveau de service.
Merci, Mme Fournier. Bonne journée.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir. La valeur de votre propriété explose. Dans le nouveau rôle d'évaluation qui a été présenté hier, on parle d'une variation là à la hausse de 32 %. Ça, c'est en moyenne. Mais selon l'endroit où vous habitez, selon le type de propriété que vous avez, ben, l'augmentation, puis vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de la ville puis voir la différence, là. Ce sont des augmentations de 30, 40, 48 %. Évidemment, ça ne veut pas dire une hausse de taxe de 48 %, mais la hausse de taxe demeure à ce stade-ci un point d'interrogation. J'en parle avec la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des finances, Dominique Olivier. Madame Olivier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Là, c'est une augmentation solide sur papier. Là, les propriétaires qui vous écoutent ce matin pouvaient le voir venir, là, mais sont quand même sous le choc. La première question qu'ils ont en tête, là, sur leur compte de taxes pour la fin de l'année, ça va se traduire de quelle façon?
Écoutez, M. Arcand, je veux les rassurer tout de suite. Je vous dirais que ma mère, qui a 80 ans passés, a été la première personne à m'appeler en disant la nouvelle. Alors, vous vous imaginez bien que notre administration est très concernée par la capacité de tous les payeurs de taxes montréalais de faire face à cette situation-là. Alors, si d'un côté, c'est une bonne nouvelle, parce que ça signifie qu'on a plus d'actifs, que notre marché est bon, d'un autre côté, effectivement, il n'est absolument pas question d'aller vers des hausses de taxes, je vous dirais, même pas au niveau de l'inflation qui est à 8%.
C'est quoi votre plafond?
Je serais un peu irresponsable de vous donner un chiffre tout de suite. Parce que, vous savez, l'inflation, ça touche tout le monde, ça touche aussi la ville, ça touche nos services. Comme vous le savez, c'est mon premier budget. Alors, je veux être sûr que j'arrive à faire les bons équilibres. Pour moi, c'est ça qui est important. Donner des services de qualité, arriver à faire face à nos obligations, mais en même temps, respecter la capacité des Montréalais de payer.
Les Montréalais font face à des hausses de taux d'intérêt. Les Montréalais font face, pour faire un dessin, à une inflation qui galope, inflation qu'on établit pour le moment à 8%. Vous me dites, j'irai pas là. Moi, j'avais compris que l'engagement de Projet Montréal, c'était de limiter ça à 3%. Je comprends que c'était pas ça, là?
Ben, écoutez, je sais pas d'où sort ce chiffre. L'an dernier, on s'était engagé à garder à 2% ce qu'on a fait. Mais vous savez, l'inflation, c'est chaque année qu'elle se calcule. Et nous aussi, on en est victime. Moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, M. Arcan, c'est que quand des gouvernements, des partis en élection s'engagent à faire des baisses de taxes, qu'ils investissent sur l'individu en oubliant le collectif, ben, c'est les mêmes payeurs de taxes. Donc, moi, je pense, personnellement, et c'est ce que les maires des grandes villes ont fait hier, c'est que si les gouvernements supérieurs pouvaient nous soulager dans un véritable pacte de certaines obligations de payer, ben c'est clair que les contribuables n'auraient pas à faire les frais de dépenses qui s'en viennent. On a vu les inondations avant-hier.
Non, je comprends que la ville est coincée avec le maximum de ses revenus qui viennent de la taxe foncière. Je comprends tout ça et que Québec a, disons, une capacité d'aller chercher des revenus autrement et même profite de l'inflation. Mais je reviens quand même aux Montréalais qui vous écoutent. Puis là, je comprends la belle phrase de dire on est conscient, là. Mais ça peut pas être des augmentations de 6-7%. Ça peut pas être des augmentations de 5%. Quand l'inflation est à 2 puis qu'on dit on garde ça au niveau de l'inflation, ça peut se défendre. Mais on sait très bien que pour des gens, là, ce sont des augmentations qui, dans les faits, sur leur compte, même si vous me dites la moyenne de la ville, ça va être 3%, il y en a que ça va être 6-7% pareil, là.
Bon, c'est sûr qu'il y a toujours l'effet de la taxe locale, mais à mon avis, ça ne devrait pas aller jusque-là. Comme je vous dis, je veux pas être irresponsable puis m'engager à un chiffre pour que dans 2 semaines, vous me disiez, dans 6 semaines, quand on va sortir le budget, vous me disiez, ah, mais Mme Olivier, vous aviez dit. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de dire, on est sensible, on travaille très fort pour garder la ville abordable, mixte, avec des bons services, mais tout nous touche. Je peux vous dire qu'on n'ira pas à 8%, c'est clair. À 7-8%, là, ça me paraît impensable. Là. C'est vraiment pas envisageable. Ça respecterait pas la capacité de payer. C'est pour ça que je vous rappelle aussi que j'ai annoncé qu'il va débuter au mois de novembre un chantier sur la fiscalité pour qu'on regarde comment on peut diversifier les revenus. Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble sur une meilleure façon de répartir l'assiette fiscale.
Une question qui va peut-être vous paraître un peu étrange. Avez-vous pensé à réduire les dépenses?
Oui. C'est une partie d'ailleurs de notre chantier où on va commencer par se regarder nous-mêmes et voir qu'est-ce qu'on est capable de
faire.
Est-ce
qu'on a trop d'employés municipaux? Est-ce qu'on a des postes de dépenses qui ne devraient pas être aussi, disons, juteux? Bref, allez-vous un peu, parce que on sait tous que l'univers municipal, quand même, en termes de coûts, là, c'est assez confortable.
C'est vrai que la masse salariale représente une bonne partie de nos dépenses. Mais c'est vrai aussi qu'on rend énormément de services. Pensez-y un instant. Combien vous payez, vous, pour votre compte Vidéotron, par exemple? Mettez Vidéotron belle ensemble. Hein, ça doit commencer à ressembler à votre compte de taxes.
Ben, c'est parce que d'abord, un, on va comparer des affaires égales, là. Un compte comme Vidéotron ou Bell, c'est un choix. Je veux dire, ça devient à ce moment-là. Les taxes, j'ai pas le choix, là. À part Éric Duhaime qui des fois transfère ça à quelqu'un, là. Mais moi, j'ai pas le choix. Vous m'envoyez mon compte, il faut que je le paye.
On s'entend tout à fait. Mais en même temps, si je vous envoie un compte, c'est que vous avez un actif.
Oui, mais j'ai un actif sur papier. Puis ça m'amène à l'autre volet. On a vu les gens quitter Montréal, honnête, pour aller vers la première couronne puis vers la deuxième couronne. La crise du logement, c'est réel. L'accès à la propriété, notamment pour des jeunes, c'est un casse-tête infernal. Si vous avez 25 ans aujourd'hui, là, je parle en moyenne, là, puis vous regardez la valeur des propriétés à Montréal, c'est impensable d'acheter en ville.
Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on a lancé le chantier Montréal abordable qui vise à ramener au moins 10 000 logements abordables, pérennes sur le marché. Pardon, j'ai dit 10 000, 60 000 pendant les 10 prochaines années. Donc, pour nous, c'est une réalité. Ce qui est aussi une réalité, c'est que on vit dans un monde où la transition écologique nous force à faire des choix. Alors, si le rêve de tout le monde, c'est le petit pavillon, la maison unifamiliale, le bungalow avec son petit terrain, c'est sûr que ça peut être de plus en plus difficile que ce soit abordable à Montréal, le rôle le prouve. Mais on peut avoir diverses typologies de logements qu'on peut rendre abordable et garder abordable.
Mais actuellement, là, c'est pas abordable. Je veux dire, avec les taux d'intérêt, écoutez, là, j'ai des courriels à la tonne, j'en parle avec mon ami McSween. Actuellement, être propriétaire à Montréal, puis même être locataire, parce que ça a un impact sur les locataires, c'est une fortune. Et les gens, avec le télétravail, se disent, j'ai plus les moyens de vivre à Montréal, ou j'ai pas les moyens de venir vivre à Montréal.
Je vous entends. Et pour nous, la mixité est une valeur importante. Je vous le répète, on fait ce chantier Montréal abordable, on fait le chantier sur la fiscalité, on fait des choix pour garder les Montréalais à Montréal, alors que ce soit des choix d'investir dans nos quartiers, d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer la sécurité urbaine, pour que justement Montréal demeure une ville attractive. Et on va et vous pouvez me croire, on va continuer à mettre tous les efforts et à tourner toutes les pierres pour s'assurer qu'on arrive à notre objectif.
Dites-moi donc, juste pour un rappel, le budget va être présenté quand? Et autrement dit, à quel moment on va savoir exactement combien ça coûte en taxes?
Le budget va être déposé au courant du mois de novembre et je m'engage aussitôt que j'arrive à terminer les calculs, à équilibrer tout ça, à revenir vous le dire pour pouvoir rassurer les Montréalais.
Merci, Mme Olivier. Bonne journée.
Je vous en prie.
Au revoir. Dominique Olivier est la présidente du comité exécutif et la responsable des finances. Pierre-Yves va soulever des points tantôt importants, là, c'est-à-dire les différences entre les méthodes de calcul des immeubles pratiquement identiques avec des variations importantes. Ça peut aller à jusqu'à 1 000 de plus de taxes. Les montants qui sont plus élevés pour les contestations de rôle d'évaluation. Et vous allez voir, parce qu'il y a ce que la ville-centre va charger en taxes, mais aussi la taxe locale, donc l'arrondissement. Vous pouvez vous attendre à mettez donc une coupe de 100 piastres de côté pour justement faire face à ces augmentations de taxes. Maintenant, parlons de la campagne électorale. D'abord, il y a ce sondage ce matin, Léger Québécois, qui montre un certain nombre d'éléments. Un, la CAQ est en baisse de 4. Elle demeure dominante dans l'ensemble du territoire québécois, sauf à Montréal. Il y a 30-quelques % des gens qui pourraient encore changer d'idée. Le débat de ce soir va être peut-être un enjeu important. Et l'opposition arrive pas, je dirais, il y a pas un parti d'opposition qui se détache. Les libéraux sont prisonniers un peu de leur vote anglophone, ils sont pratiquement à terre chez les francophones. Québec solidaire monte un peu, le Parti québécois se relève un peu, les conservateurs, beaucoup dans la région de Québec et en périphérie. Autrement dit, à ce stade-ci, on a un gouvernement fortement majoritaire de la CAQ, mais les partis d'opposition, parce qu'ils sont divisés, ben sont pas représentés, disons, à la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Alors, le débat de ce soir, le premier, c'est un enjeu. Ce matin, pour en parler, Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc, il en a fait des débats. Monsieur Duceppe, bonjour.
Bonjour.
Si vous aviez un conseil à donner aux candidats ce soir, compte tenu de votre expérience, ce serait lequel?
Oh, vous savez, un débat ne se prépare pas de la même façon pour chaque personne. Beaucoup font des simulations, ce que j'ai jamais fait. Mais chose certaine, il y a un stress très fort. Or, le seul conseil que je pourrais donner, c'est tenter d'être calme, sachant que ça va être un peu comme dans le sport, là. Quand vous jouez au hockey ou au football, vous embarquez sur le terrain, vous êtes nerveux. Quand la partie commence, la nervosité disparaît parce que vous êtes dans la partie. Mais avant d'arriver dans la partie, il faut arriver le plus en forme possible. Donc, relaxez, détendez-vous. Et quant aux dossiers, normalement, vous les connaissez. Si vous les connaissez le jour du débat ou la veille du débat, c'est un peu comme l'étudiant qui commence à étudier la veille de l'examen, là. Ça marchera pas. Alors, donc, se détendre, je pense.
Mais c'est le premier ministre qui est la cible première, là. Ils sont cinq, puis il y en a quatre qui vont tirer en sa direction.
Mais peut-être que ça va être différent ce soir.
Pourquoi?
Savez-vous? Vous l'avez expliqué un peu tantôt, là. Il y a une grande avance, même s'il a diminué de 4 points selon le sondage ce matin. Maintenant, tous les autres partis sont au coude à coude ou presque. Il y a quand même une différence de 7 points, je pense, là, entre les libéraux et le PQ qui est au dernier rang. Donc, la bataille ce soir, et c'est peut-être la première fois qu'on verra ça, va se passer pour savoir qui va finir deuxième. C'est peut-être plus ça qui se joue ce soir qu'à savoir que qui se terminera premier. On a eu des débats dans le passé où il y avait deux personnes seulement. Ça a commencé avec Kennedy et Nixon. Et puis, on a vu tous ces débats au Canada et au Québec. Maintenant, au fédéral, il y avait 4-5 partis depuis quelques années. Mais et personne pouvait prétendre que être sûr de terminer au premier rang. Alors que ce soir, à moins d'une surprise générale, ça peut toujours arriver, il semble que M. Legault se destine à la victoire. Donc, la lutte se passe tous pour savoir qui finira deuxième. Et je me demande si dans la stratégie des partis, ça ne serait pas de démontrer que la meilleure opposition officielle, ben, ça serait moi, ça serait nous, notre parti.
Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que les Québécois se disent, OK, on comprend, là, les sondages sont clairs, Legault va gagner, mais qui je veux voir devant le premier ministre?
Ben, peut-être que les gens se posent pas ça comme question, mais peuvent réagir comme ça suite au débat en se disant, mais écoute, moi j'hésitais entre la CAQ et puis un des autres partis. Ben ce soir, là, je trouve que le parti envers lequel j'avais des hésitations ferait une bonne opposition. Et ça peut jouer énormément dans la stratégie des quatre autres chefs qui vont, en plus de ça, en être à leur premier débat, hein.
L'autre question, quand on regarde ça, c'est un débat encadré, bien sûr, avec du temps, enfin, chrono pour les face-à-face, puis bon. Il y a plusieurs qui regardent ça en disant, c'est tellement serré qu'il y a personne qui peut se démarquer, puis il y a personne qui peut faire une gaffe majeure. Autrement dit, les chefs vont peut-être sortir presque intacts d'une confrontation comme ça.
Ça, je suis pas sûr de ça. Parce
okay.
que c'était comme ça au fédéral toujours, très encadré, 4-5 partis, et une gaffe peut survenir. Quelqu'un m'a déjà appelé mon amour, hein. je m'en souviens.
Ça vous a marqué?
Ça m'a surpris un peu, pas mal, beaucoup. Et un bon coup peut arriver aussi. Il s'agit souvent dans un débat de pas d'avoir d'agressivité. C'est très mauvais, ça. Mais de pouvoir marquer, là, déstabiliser l'adversaire. Et avec une phrase simple, mais qui frappe. Et moi, j'ai gagné, surtout en anglais, beaucoup de débats. D'ailleurs, je disais que j'aimais mieux ça en anglais parce que je comprenais ce que les autres disaient, alors qu'en français, c'était très difficile de comprendre, bien souvent. Mais une seule phrase, j'avais dit, je me souviens, M. Chrétien, qui disait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, I did this, I did that. Puis il arrêtait pas. Fait que je lui ai dit, vous êtes sûr, vous n'avez pas inventé Internet? Et le lendemain, le Globe and Mail titrait ça, puis il me donnait vainqueur. Une phrase.
OK,
ça
mais.
A marqué.
Cette phrase-là, l'aviez-vous préparée avant?
Absolument pas. Ça, okay. C'est la pire des choses. Quelqu'un qui prépare une phrase avant, là, va tenter tout le long du débat de la placer. Et va rater le débat. Je pense que ça doit venir en se pratiquant à la longue. Moi, je fais ça depuis des années, même avant d'avoir été en politique, quand j'étais dans le mouvement étudiant, quand j'étais en négociateur syndical. de débattre avec moi-même quand je faisais du vélo. Et c'est comme dans le sport, hein, ça devient une habitude. Et dans un, vous n'avez pas le temps de penser quand vous jouez au football. Vous réagissez parce que vous avez pensé longtemps avant, parce que vous avez étudié les jeux, parce que vous les avez pratiqués. Alors, c'est la même chose en politique. Ça vient tout seul si vous êtes habitué à avoir la réplique, donc à savoir comment répliquer. Et en se disant que c'est pas le temps de faire un roman, c'est le temps d'avoir un slogan. Tu sais, c'est... faut y aller vite.
C'est une bonne ligne. Monsieur Duceppe, merci.
Merci.
Au revoir. Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, il a participé à 17 débats des chefs anglais-français, donc une vaste expérience. Ce soir, donc, présenté à TVA, 20h. Hier matin, Alain Raïs était avec nous pour parler de son départ du caucus conservateur, donc va siéger dorénavant comme député indépendant de Richmond-Arthabasca. Puis après ça, on apprend, sur l'heure du midi, que le Parti conservateur fait circuler un message automatisé invitant les membres, les militants, à téléphoner au bureau de comté pour demander sa démission. J'ai jamais vu ça. Et ça a soulevé, non seulement chez un bon nombre de citoyens, une espèce de haut-le-cœur, mais aussi une espèce de réaction en disant « Est-ce que ce sont maintenant les méthodes du Parti conservateur? » À un point tel que le Parti conservateur, de façon très discrète, hier soir, tard, a présenté des simili-excuses. M. Raïs est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
D'abord, avez-vous eu beaucoup d'appels au bureau de comté? Puis quel genre d'appels vous avez reçus?
Le téléphone n'a pas dérougi, les trois lignes pleines jusqu'à environ, je vous dirais, 7h le soir où là vraiment tout s'est estompé. Mais la beauté dans tout ça, c'est que je dirais 90-95% des messages, c'est des messages d'encouragement. Même pas des gens de ma circonscription, mais des gens de partout qui ont entendu l'histoire dans les médias, dans les différentes tribunes, qui voulaient m'envoyer le message de pas démissionner, de pas flancher face à la pression et l'intimidation là, qui était utilisée par les techniques du parti conservateur en ce moment pour essayer de me discréditer ou me faire passer pour une personne frustrée parce que j'ai quitté à cause de la défaite de M. Charest pendant la course à la chefferie. Là.
Est-ce que quelqu'un du parti vous a appelé dans la journée d'hier en disant on s'excuse, là, il y a quelqu'un qui a pesé sur un bouton? Est-ce qu'il y a eu un contact avec l'entourage du chef?
Non, aucun contact, aucune tentative, même les excuses, vous le faisiez mention, puis en passant, je me suis jamais même attendu qu'ils fassent des excuses, parce que c'est surtout pas leur style, mais les gens qui vont prendre le temps d'aller le voir sur Twitter, puis c'est pas tout le monde qui est sur Twitter en plus, sûrement pas tous mes citoyens qui ont reçu le message d'appeler ici pour me demander de démissionner, vous le regarderez, c'est pas des excuses envers moi, c'est pas des excuses directes à ceux et celles qui ont été interpellés, donc c'est vraiment là pour essayer de mettre un couvercle, là, sur la marmite de leur côté. Puis ça fait juste démontrer, vous soulignez, là, le style de politique où ils vont. Puis ça me réconforte dans ma décision que j'ai prise. Donc si j'avais un petit soupçon dans ma réflexion que j'avais enclenché pour quitter le parti parce que c'est le genre de politique que je ne veux pas m'associer, que je ne veux pas cautionner, ben ils l'ont confirmé par cette façon de faire. Puis si je peux rajouter, c'est assez sarcastique. Au même moment où ils font des excuses, pas à moi, mais par rapport à ça, j'ai leur directeur de campagne, Yves Lévesque, l'ancien maire de Trois-Rivières, qui lui me ridiculise en ondes en me traitant de victime, que je joue à la victime, puis que j'accepte pas la défaite, ainsi de suite, pour en rajouter une couche par-dessus. Fait que ça vous montre que tout l'entourage fonctionne de la même façon que M. Poilievre, puis c'est malheureux, comme avec l'attaque des médias là, qui ont fait par l'envoi du courriel à tous les membres, là.
Oui, puis d'ailleurs, il faut préciser que le journaliste de Global essayait de poser une question parce que M. Poilievre voulait faire une dictée, dans le fond, c'est-à-dire prenez des notes, puis rapportez ce que je dis, puis je prends pas trop de questions. Et c'est parti de là. Il a transformé ça, lui, en disant les médias véhiculent pas notre message, donc il faut battre les libéraux, il faut battre les médias, puis c'est le ton. Mais l'autre question, M. Raïs, que j'ai en tête, là, M. Deltel... Monsieur Gourde, les autres députés conservateurs, là, ils sont où?
Sincèrement, j'en ai aucune idée.
Gérard Deltel n'a pas pris le téléphone pour dire « Alain, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe ».
Non. De toute ma famille conservatrice, il y a un ou une députée, ben, je veux pas les nommer, j'ai pas envie de les impliquer, je veux pas, mon idée, c'est pas de faire grossir cette histoire-là. Moi, tout ce que je souhaite, c'est retourner dans mes activités puis faire ce que j'aime faire, être député pour mes citoyens. Mais, c'est, il y a une personne hier, tard dans la soirée, qui m'a envoyé un petit texto pour me dire simplement, je suis vraiment désolé de ce que tu vis présentement à cause de mon organisation.
Quelqu'un du caucus?
Quelqu'un du caucus, une personne.
Une personne, c'est tout.
Ouais. Ouais. C'est assez ordinaire.
C'est ça,
chacun font ce qu'ils veulent, puis sincèrement, je m'attendais pas à rien de ça. Je vois comment le régime de terreur est installé. Fait que je me mets à leur place. Leur objectif, eux, c'est de continuer à faire de la politique à l'intérieur de l'organisation, parce que c'est leur choix, puis je le respecte, ce choix-là. Je le répète, moi, j'ai pas tenté de faire un push, j'ai pas tenté d'embarquer du monde avec moi. Moi, j'ai fait une réflexion qui est personnelle, basée sur mes valeurs et mes convictions, puis j'ai voulu la rendre en toute transparence. La faire connaître en toute transparence aux citoyens de ma circonscription et aux partis, à mes confrères, en toute honnêteté, en disant, regardez, je me sens plus bien, tout simplement, puis je veux dire, à 8 heures le soir, monsieur Poilievre a dit aux médias pour essayer de me discréditer qu'il a tenté de me rejoindre pour me convaincre, puis le lendemain, on décide de m'écraser parce que je suis un rien que rien, fait qu'on voit comment ça marche, un peu comme Trump, si vous marchez pas dans ma direction, vous êtes pas avec nous, ben vous êtes des méchants, ben on va vous piler dessus tant ou son temps qu'on va être capable. Fait qu'ils le feront, les gens vont juger par la suite, là.
M. Reyes, merci à vous, bonne journée.
Ça fait plaisir, bonne
au
journée.
Au revoir, Alain Reyes, qui est le député fédéral indépendant maintenant de Richmond-Arthabasca.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On revient ici parce que les policiers de la Sûreté du Québec entrent dans des moyens de pression. L'Association des policières et policiers a suspendu les négociations avec le gouvernement pour le renouvellement de la convention collective. Et comme dans, je dirais, quand un conflit de travail, c'est comme une gradation des moyens de pression. Dominique Ricard est le président de l'APPQ. Monsieur Ricard, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, pourquoi on en arrive là à justement des moyens de pression?
Écoutez, après 15 ans de négociations de façon raisonnée, le Conseil du Trésor a adopté une approche très différente de ce qu'on connaît depuis le début des années 2000 et veut pas reconnaître la responsabilité, les obligations que les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont en vertu de la loi de police. Donc, on a une problématique, on est dans les moyens payés au niveau du Québec, et là, ben, on tente de se positionner au bon endroit, puis il n'y a pas d'écoute du côté du Conseil du Trésor.
OK, mais l'enjeu, c'est la paye, là.
Non, il y a beaucoup de problématiques actuellement. Il y en a plusieurs à différents égards. La formation, on a des problématiques au niveau de la santé mentale. Le temps supplémentaire obligatoire s'est rendu une problématique incroyable. Il y a des gens qui reçoivent des ordres actuellement qui les refusent, sont plus capables. C'est une question de santé mentale. Donc, ils disent, je vais prendre la suspension, je suis plus capable.
Quand vous me dites, il y a d'autres policiers au Québec qui sont mieux payés, qui sont les policiers les mieux payés au Québec?
Ah, écoutez, la majorité. Il y a une trentaine d'accords de police au Québec. On est dans les derniers. Quand je dis dernier, non, c'est pas dernier, mais pas très loin.
Mais c'est Montréal, c'est Québec, vous ne savez pas?
Ah, ben l'ensemble des policiers municipaux du Québec. Donc, il y en a plusieurs, là. Je ne peux pas tous les énumérer, mais dans les trentaines d'accords de police au Québec, au niveau des policiers municipaux, on est en queue de peloton.
OK, mais si vous êtes les moins bien payés, comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui vont à la Sûreté pour faire leur carrière? Montréal, il y a des policiers qui partent à la retraite avant terme. Il y a des policiers qui même font quelques années, quittent la police ou vont travailler ailleurs pour un autre service de police. Si vous êtes les moins bien traités, pourquoi les policiers vont chez vous?
Mais on en a aussi, M. Arcand, des gens qui quittent en milieu de carrière. J'ai deux policiers dernièrement qui ont quitté à 15 ans de police, sont partis faire complètement autre chose. Fait que c'est pas un phénomène uniquement montréalais avec nos collègues. On a aussi la même problématique. On réussit à embaucher, mais on a des gens qui quittent.
OK. Vous parliez du temps supplémentaire. Est-ce que, compte tenu de ce qui se passe à Montréal, là, avec, bon, manque d'effectifs, puis création d'escouades spécialisées qui drainent des policiers de différents services, différents arrondissements, est-ce qu'il y a des policiers de la Sûreté du Québec qui sont appelés en renfort pour backer Montréal, comme on dit?
Ah oui, tout à fait. Cette semaine, pour une première fois depuis mardi, On a 8 patrouilleurs qui sont à Montréal sur des escouades spécialisées pour aider puis supporter nos collègues. Et en fait, ça fait partie de nos responsabilités au niveau de la loi de police. Dans la loi de police, là, il y a des niveaux de service. La Sûreté du Québec est à niveau 6, Montréal 5, Québec 4. Bref, les corps de police sont positionnés en fonction de la grosseur de leurs effectifs et les responsabilités sont en fonction de ça. Et la Sûreté du Québec, elle, dans son mandat, est appelée à supporter l'ensemble de ces corps de police-là, en plus de certains services que certains corps de police offrent pas.
Bon, les moyens de pression, là, ce que je comprends, c'est que le premier, là, c'est de pas utiliser des véhicules qui ont plus de 220 000 km au compteur, là, sauf pour les cas urgents. Puis samedi, c'est le refus du temps supplémentaire obligatoire pour une période de 24 heures.
En fait, faut pas confondre l'histoire des véhicules. L'histoire des véhicules, c'est qu'on a une problématique de santé et sécurité. Je suis en Gaspésie actuellement. On a des gens qui sont rendus avec des véhicules à 295 000 km. Ce qu'on mentionne, là, c'est qu'il n'y aurait pas eu d'inspection sur ces véhicules-là. Donc, la problématique, c'est que ce qui est fait actuellement n'est pas suffisant pour utiliser ces véhicules-là. Il y a une problématique, mais elle est pas bien encadrée. Ça, c'est pas un moyen de pression, c'est une problématique de santé et sécurité. Pour ce qui est du temps supplémentaire, le message que j'ai de mes membres, c'est qu'ils sont épuisés. C'est rendu un enjeu de santé mentale aussi. Là, j'ai croisé quelqu'un hier ici qui me disait, moi, là, j'ai fait 60 heures de temps supplémentaire, en 8 jours de congé, je vois plus ma famille. Là, moi, à la maison, là, ça commence à craquer, puis ma conjointe, elle me lance des signaux, puis c'est pas le seul. J'en ai plusieurs ici, puis à travers la province, qui sont dans cette situation-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est d'opération spéciale en opération spéciale. Monsieur le premier ministre nous a demandé de faire la surveillance et la protection des différents candidats aux élections. On a tout le temps des mandats qui s'ajoutent. On a eu le pape cet été, on a eu des vacances qui ont été cancellées. Bref, ça n'arrête pas. Fait qu'on carbure aux opérations spéciales. Fait qu'au-delà de notre mission première, on prête des gens un peu partout, ce qui diminue les effectifs sur les unités qui causent du temps supplémentaire. Et là, les gens sont plus capables.
OK, mais la prochaine étape, c'est quoi, là? Bon, je me souviens de moyens de pression des policiers de la SQ. C'était, par exemple, de pas donner de tickets. D'intercepter quand quelqu'un avait une conduite dangereuse, mais pas nécessairement de donner d'étiquette, faire mal aux revenus du gouvernement. Êtes-vous dans ça?
On peut plus, M. Arcand. C'est ça le problème, c'est que dans la police, il y a eu plusieurs décisions qui ont été rendues. Le Conseil des services essentiels a déterminé que l'attribution de contravention aux citoyens est un service essentiel. Donc, on peut plus utiliser ce moyen-là. Et nous, ben, on n'a pas d'arbitrage exécutoire qui nous permette d'avoir un tiers qui tranche nos conditions. Fait qu'on est très limité dans ce qu'on peut faire, puis ce qui force le gouvernement à pas trop nous écouter dans ce contexte-là, parce qu'ils ont le gros bout du bâton. Fait que là, moi, mes gens sont plus capables. C'est au péril de leur santé actuellement. Là, j'en ai plusieurs. J'ai quelqu'un qui était voir le médecin cet été, il avait mal partout. Je lui ai parlé, puis il dit, là, je pense que j'ai le cancer. Puis le médecin, il dit, non, t'es en épuisement. Il voulait pas arrêter. Mais c'est ça le contexte. Puis ça, c'est un, là. Je peux vous en raconter plusieurs histoires comme ça.
Avez-vous l'intention d'aller manifester là où se trouve le premier ministre ou la présidente du Conseil du Trésor?
Ben, ça, c'est une autre chose qui est limitée. En tant que policière et policier, on peut pas manifester en uniforme. Donc, comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de moyens, puis on n'a pas beaucoup d'écoute. Donc, ce qu'on pense, nous, c'est que nos gens sont fatigués, mais on va leur dire de se reposer. Puis là, c'est 24 heures. Mais ça va être quoi la prochaine fois? Je le sais pas. On nous demande de protéger les élus. À un moment donné, là, c'est une pression énorme aussi en temps supplémentaire. Il n'y a pas de congé. Les gens roulent pendant 30 jours. Est-ce qu'à un moment donné, on va être obligé de prendre des pauses pour se reposer, pour pas prendre de mauvaises décisions? Quand on fait 22 heures de temps supplémentaire en ligne, puis on conduit un véhicule, est-ce qu'on pense que c'est sécuritaire pour la population? Okay, pour nous?
Non, ça, je comprends. Mais là, juste comprendre aussi ce que vous me dites. Là, êtes-vous en train de me dire, on va lever le pied sur la sécurité des élus parce qu'il y a trop de temps supplémentaire?
Ben, c'est parce que cette opération-là cause du temps supplémentaire aussi. Oui. Moi, là, j'ai des échos, nos gens sont fatigués. Fait que je veux pas, comment je vous dirais ça? Je veux juste trouver une solution. En fait, nous, là, depuis le début, on propose des solutions dans la négociation. On a beaucoup de solutions au niveau du normatif, de l'attraction, de la rétention, d'être capable d'amener une certaine flexibilité, et il n'y a pas d'écoute. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est parler de solutions. Et là, il faut se faire entendre.
OK. Merci, M. Ricard. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Dominique Ricard est le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Je vous entends, bien sûr, la Sûreté du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Vous vous souvenez, bien sûr, de ces deux Québécoises qui étaient parties en croisière, qui se sont retrouvées en Australie, qui ont été arrêtées pour trafic de stupéfiants. Mélina Roberge est l'une de ces deux jeunes femmes. Elle a fait 5 ans de prison et publie un livre qui s'appelle « Sans filtre ». Elle est avec nous ce matin. Bonjour.
Bon matin.
Première question, puis vous commencez le livre de cette façon-là, ouais. C'est-à-dire que vous étiez avec votre amie Isabelle, puis là, vous avez vu ce qui, de toute évidence, étaient des policiers. Mm-hmm. Là, vous saviez que c'était fini, là, ouais. Que vous venez de...
Instantanément.
Pourquoi? Parce que ils étaient à votre trousse?
Ben nous, on savait pas du tout ce qui se passait dans les coulisses, là, si je peux dire. Fait que ça, là, moi, j'avais eu une espèce de mauvais feeling le matin même, mais aussi les jours avant. Fait que c'est certain que quand tu les vois arriver... c'est pas impossible qu'il y ait eu une enquête qui a été commencée au début. Nous, quand on est arrivé au Canada, là, en Nouvelle-Écosse, ils étaient venus nous poser des questions. Ça, je l'avais mentionné aussi dans le livre. Fait que je me suis dit, ça se peut qu'ils trouvent ça louche, peut-être qu'il y ait deux jeunes filles sur une croisière qui coûtent des milliers de dollars. Puis, j'avais comme gardé ça en tête tout le long. Fait que quand ils sont arrivés, je me suis dit, c'est peut-être pas d'adon, tu sais. Mais oui, ça a été une surprise. Puis on dirait que ton monde s'écroule après, là, quand ça arrive. J'ai de la difficulté des fois à me rappeler de certains moments de cette journée-là parce qu'on dirait.
Ben, vous dites dans les, à un moment donné, bon, il y a le chien renifleur.
Ouais.
Puis quand le policier dit good boy, ouais. Là, c'est qu'il vient de trouver la drogue.
C'est ça.
La première question que tout le monde se pose, quand vous êtes parti en croisière, mm-hmm. Vous le saviez que c'était pour une affaire de stupéfiants?
Oui.
C'était clair, là. Vous n'avez pas été piégé à bord
non,
du navire.
Non, non, je veux pas mettre. C'est entièrement ma responsabilité. Ben, je veux dire, c'est ma faute ce qui est arrivé dans le sens que je savais dans quoi je m'embarquais. Fait que je blâmerai jamais personne d'autre que moi-même. Là,
pourquoi vous êtes embarqué dans du trafic de stupéfiants?
Ben, moi, je peux pas parler pour Isabelle.
Non,
parce
mais
que,
vous?
Oui, moi, il y a plusieurs raisons, mais je pense que. La spontanéité de la chose, ça a été grandement partie de pourquoi je suis partie. Ça m'avait été proposé une première fois, j'avais refusé la première fois, puis la deuxième fois, c'était très, très, très rapide. Je partais deux semaines après, j'avais le sentiment qu'on avait besoin de moi, parce que c'était des amis à moi. Dans ma vie personnelle, ça allait pas très bien. Fait que je pense que je me cherchais peut-être un échappatoire, puis je cherchais aussi à recevoir un peu d'amour des gens, puis je me disais, si je mets des belles photos que je t'en voyage, puis j'ai l'air d'être bien puis d'avoir un certain mode de vie que les gens apprécient à regarder. Même moi, sur mon Instagram, toutes les gens que je suivais, c'était des gens qui avaient des gros modes de vie. Fait que dans ma tête de jeune fille de 22 ans qui est très naïve puis trop spontanée, j'ai accepté vraiment en coup de tête, mais c'était sincèrement beaucoup pour des raisons superficielles comme je voulais avoir des belles photos sur mon Instagram, je voulais me sentir aimée, je cherchais beaucoup de validation des gens, ce qui est totalement... stupide là, comme façon de penser.
Au-delà de vous offrir tout un voyage, ouais. Là, quand même une croisière comme ça à travers le monde de ouais. 6 mois, là, toutes dépenses payées, ils vous ont-tu donné de l'argent en plus? Est-ce que vous avez eu... Est-ce qu'il y avait au moins... Je sais pas...
En revenant, vous voulez dire?
Avant de partir ou en revenant, est-ce qu'on vous a promis de je sais pas, un montant d'argent pour
ouais,
faire
ouais,
la job?
Il y avait un bon montant en revenant. Là, j'ai jamais vraiment dit le montant exact, mais c'était un montant que
combien?
Ça aussi que ça pouvait être alléchant. Là.
100 000?
Ouais, autour de ça, j'ai pas le montant exact, mais c'est un montant que ça aurait pu aider aussi des gens que moi j'avais envie d'aider là, qui étaient dans le besoin à ce moment-là, mais aussi pour mes besoins absolument égoïstes de fille de 22 ans, des choses que je voulais m'acheter, puis.
On va parler de ces besoins ouais. Superficiels, matériels ouais. d'une fille de 22 ans, parce que dans le livre, vous parlez de votre vie là.
Mm-hmm.
Qui vous a amené justement à rencontrer ces gens-là, mm-hmm. puis à partir en voyage. Dans le fond, très jeune, vous êtes une fille de party, puis les parties, ça veut dire alcool, dépenses, resto dans mm-hmm. le Vieux-Montréal, les...
Tout payé. Ouais.
Vous n'avez jamais rien payé?
Non, mais tu sais, les gens me disent, oh, ça t'a pas sonné une cloche, mais pas vraiment, parce que il y avait beaucoup d'autres gens avec nous. T'sais, c'était jamais moi toute seule avec des personnes ou avec juste une personne. On était toujours un groupe de personnes, des gens que je connaissais, que je connaissais pas. Donc, exemple, un souper, ben c'était payé pour tout le monde. C'était pas juste pour moi. Fait que oui, tu te sens spécial dans un sens parce que t'as pas à payer ton souper, mais c'est
tu
pas.
Dis pourquoi des gars? Avec qui vous couchez pas, là?
Mm-hmm.
Des vieux monsieur?
Ben, c'était des amis. Ben, ils étaient vieux monsieur. C'est... Ben. Moi, j'ai une ouverture d'esprit assez grande
okay,
dans la vie.
Pourquoi
fait que...
ces gars-là payaient tout le temps? Je dis pas une fois.
Ben, j'ai pas de réponse à ça, là, présentement. Puis j'ai beaucoup de questions qui ont pas été répondues par rapport à tout ça. Par rapport au pourquoi ça m'a été proposé, c'est-tu parce qu'on était amis puis ils voulaient me dépanner ou est-ce que ça a été manipulé du début à la fin pendant un an et demi? J'ai pas de réponse à ça. Fait que pour moi, je trouve, des fois, c'est difficile de répondre à des questions quand on veut des clarifications, quand même, moi, j'ai pas
parce
la réponse
on parle de deux personnages principaux, mm-hmm. là, c'est-à-dire celui que vous appelez le joaillier et le banquier. Mm-hmm. Pendant un an et demi environ, dans le fond, ils ont été en relation avec vous régulièrement dans des soirées. Mm-hmm. Et à chaque fois, c'était payé par eux.
Mm-hmm. Mais on s'appelait aussi presque à tous les jours. T'sais, on se racontait nos vies.
Mais vous n'étiez pas amoureuse d'un ou de l'autre?
Non, vraiment pas. C'était vraiment sincèrement mes amis.
Mais vous dites pas pourquoi il dépense? Il est rendu à, je sais pas, là, il y a des soirées
vraiment,
à plusieurs milliers de dollars.
Mais je vais vous dire, M. Arcan, c'est récurrent à Montréal. OK, on vit dans... Surtout, même en 2016, là, les gars qui payent pour des filles, on en voyait partout. C'était pas juste notre groupe, tu sais. Puis oui, souvent, c'est des hommes qui vont payer pour des femmes pendant une soirée parce qu'ils les trouvent jolies ou peu importe, ils veulent attirer la gente féminine, mais c'est rien qui est pas commun. On se comprend. Puis moi, mon cercle d'amis que j'avais avant, c'était aussi des filles que... On était habitués à la gratuité dans le sens que quand t'es belle, ben tu te fais payer des verres, puis il y a rien de mal à ça. Fait que moi j'ai un peu grandi dans ce milieu-là. Fait que moi ça l'a jamais.
Vous êtes pas dit le prochain pas c'est une forme de prostitution. On a vu ça avec des.
Honnêtement, j'ai été. Moi, je serais pas capable moi de faire de la prostitution.
Mais vous en
avez
vu.
J'ai mentionné dans le livre, j'ai eu une expérience là.
D'escorte.
Ouais, si on peut dire, sans que ça soit sexuel. Mais ça m'a confirmé cette journée-là que je serais jamais capable d'aller là. J'ai trop de respect envers envers moi-même, dans le sens que je serais pas capable de m'ouvrir comme ça à des gens que je connais pas. Mais côté club pis tout ça, de prendre des verres gratuits, ça, c'était la normalité dans le temps. Fait que je voyais pas le
temps file un peu, mais je veux qu'on parle de la prison, évidemment.
Oui.
Vous avez fait 5 ans de prison.
Ouais.
On vous a promené d'un établissement à l'autre. Une jeune fille comme vous qui est habituée à la veuve Clicquot pis qui se ramasse en prison.
C'est rendu des berlingots de lait.
Vous passez par quel type d'émotion quand, la cellule, la porte se ferme?
Ouais. T'es un peu perdu parce que je parlais anglais, mais l'anglais australien, c'est pas le même anglais.
Non.
Fait que j'avais de la difficulté à comprendre. Aussi, les filles, quand moi, je suis arrivée, on avait déjà passé à la télé quand on s'était fait arrêter. Fait que tout le monde savait on était qui. Puis là, je me fais bombarder de questions. Les gens me jugent à cause de ce que j'ai l'air. Oui, t'es dans une cellule. Il y a pas, tu sais, il y a la première cellule que j'étais, là, il y avait une caméra. Puis c'est tout en béton. Puis il y avait une fille qui était couchée à terre qui elle avait l'air super stressée. Puis j'apprends le lendemain qu'elle avait battu toutes ses colocataires de cellule, sauf moi. Fait que, tu sais, oui, c'est stressant, puis tu sais jamais à quoi t'attendre la journée d'après. T'es toujours sur le qui-vive, toujours sur les nerfs, toujours en train de regarder autour de toi, être sûr que les gens volent pas tes choses pour le peu que t'as. Fait que c'est très, très, très stressant, la prison, jusqu'à temps que tu commences à comprendre le fonctionnement, les politiques, les filles, tout ça.
Ce qu'on fait, ce qu'on fait pas.
Oui, c'est ça, tu sais, mais au début, moi, j'étais une fille d'un milieu vraiment normal. Il n'y avait pas de criminalité ni dans ma famille. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai jamais eu l'expérience d'avoir
c'était
des criminels autour
fois,
de moi.
Là.
Ben oui, tu sais, fait que c'est trop d'adaptation en même temps.
Puis vous avez développé une relation amoureuse en prison.
Ouais, avec elle venait du Brésil, elle était là pour le même crime que moi en fait. Fait que je pense que c'était un peu aussi une relation qu'on se soutenait, on vivait la même chose, on était loin de nos familles, puis c'était sa personnalité ressemblait beaucoup à la mienne, puis on est restés bonnes amies là, tu sais, je veux dire c'était une relation, mais c'était pas exemple comment je peux dire, je sais pas si ça se serait développé dans la réalité, mais tu vis un peu dans un monde de c'est tellement difficile la prison quand tu cherches n'importe quel soutien que tu peux trouver. Puis moi et elle, on se soutenait énormément dans tout ça.
Puis votre vie aujourd'hui, ça ressemble à quoi?
Beaucoup de stabilité. Ce que j'ai cherché pendant longtemps, même à mon retour, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de revenir au Canada, de reprendre la vie normale, de travailler ce que je pensais pas que ça allait être. Je pensais que ça allait être la chose la plus facile après avoir fait 5 ans de prison. Mais ça a été vraiment difficile. Mais aujourd'hui, je suis bien. On a fini. Ouais, c'est ça. Je suis bien. Je suis en couple, puis je travaille, puis tout le monde est en santé. Puis c'est
merci
ça.
Beaucoup,
Mélina
Roberge. Le titre du livre Sans filtre aux éditions du Journal de Montréal.
C'est 23.